voyou, on voit pas la tête des gens, hein. Ça le fait pas chier de faire toujours les mêmes conneries depuis 20 ans.
Salut à tous, c'est Gloomy Boulga.
Ouais.
Ce samedi soir sur Campus Grenoble jusqu'à 21h, c'est Gloomy Boulga, une heure avec 20 ans de plus dans la gueule, 20 ans de plus dans l'actualité de la semaine. Ils sont venus, ils sont tous là, ou presque. Dans une demi-heure, Yolande replonge dans la vraie vie, c'est du vécu. Yolande, bonjour.
Bonjour.
Tu t'attaques à un sommet isérois, la foire de Beaucroissant.
Beaucroissant.
De Beaucroissant. Dans un instant, presse citron, on fera le tour, un tout petit tour dans l'actualité de la semaine, direction Washington, où on a peur, nous dira Karim. Répondre à la question de la semaine, c'est son job. Jérôme, notre Jérôme, bonjour.
Bonsoir.
Une question importante ce soir, fondamentale. Doit-on sauver la planète, c'est ça ?
Tout en finesse, comme d'hab.
Une autre question, encore une, avec un expert pour répondre. Le professeur Politos, en grande forme, répondra à un auditeur qui lui demande d'où vient Emmanuel Macron. Le dégommotron, le club, tout est là, comme le GG, le guide de Gloomy Boulga, avec une invitée, Marie Caro, bonsoir.
Bonsoir.
Tu nous expliqueras comment on fait une belle chronique quand on n'a jamais rien vu, qu'on sort pas de chez soi.
Absolument.
C'est une leçon de journalisme. On ajoutera nos conseils, sortis, restez chez vous. Voilà le programme de ce numéro 65 de Gloomy Boulga qui commence comme ça. Il n'y a pas de jingle.
Il y a jingle à la bouche. Campus Grenoble 90.8.
Auditeur chéri, mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'absente quoi 20 ans? On prend quoi 3 rides 5 kilos à nous tous un demi-menton? On perd 3 cheveux et quelques illusions? On revient? Et regardez ce bordel, un grand n'importe quoi. Il y a donc très longtemps de ça, un adhérent de campus, qui s'appelait encore Radio Brume, un adhérent avait défini Gloomy Boulga ainsi. Vous êtes une bande de potes à l'antenne, il y a un d'entre vous qui dit un truc, et tous les autres rigolent comme des cons. Alors je sais plus où est, j'ai enterré le cadavre de celui-là, on l'a étranglé, désossé, dissous dans de l'acide avec un copain étudiant en médecine. Un pote
Turc,
saoudien d'ailleurs.
Turcs,
non, saoudien, j'ai plus de ses nouvelles, j'ai reçu une carte d'Istanbul récemment. Je disais donc, je me suis débarrassé de ce gêneur, mais cet adhérent de campus de l'époque avait entièrement raison. On était des cons et on rigolait plutôt bien. Je résume, on voulait bien s'agacer du monde comme il tourne, mais on préférait plutôt en rire. On voulait bien changer le monde, mais pas trop, parce qu'on est bien notre petit confort. Et on aurait bien voulu s'engager, mais ça prenait un peu trop de temps sur le cinéma, l'apéro, sur tout le reste. Donc le résultat, c'est une amélioration notable de la situation. C'est pas terrible, c'est ce que je voulais dire et c'est là où je voulais en venir. Mais quel bordel. Quand on appelait à chaque numéro à la démission de Charles Millon à la tête de la région à l'époque, c'est Laurent Wauquiez aujourd'hui qui l'a présidé. Laurent Wauquiez, droitier patenté et très tenté par les idées de la droite de la droite. Quand on parlait de la gueule... Oula, j'arrive pas à me relire. Quand on parlait de la...
étonnant.
Oui, c'est étonnant quand c'est comme ça.
L'émission n'a commencé que depuis 7 minutes.
Quand on parlait de la droite la plus con du monde, il faut faire avec Christian Jacob aujourd'hui. Et quand on se désespérait de la gauche molle de Lionel Jospin, on a dû passer par Valls pour en finir avec Macron. En fait, une chose n'a pas changé, ne changera jamais. Pedro Olivas est et restera toujours président de la radio. Une sorte de Bouteflika à vie.
Ouais.
Hein, oh. Bouteflika de campus. J'en suis sûr, ça ne bougera jamais. Alors pour le reste, c'est BFM TV, c'est des likes, c'est des smileys bouche à l'envers et des smileys caca. Ce sont des selfies photoshopées avec des oreilles de lapin. Pardon pour le monde qu'on vous laisse. Alexis HK, qui n'est pas dans la playlist de campus, je crois pas, chante ceci dans son dernier album. Je viens d'une époque étrange avec 3 chaînes à la télé et des TGV orange. Il ajoute, comme pour nous excuser, on n'en demande pas trop à qui a grandi avec TF1, c'est tout nous. Et puis maintenant, ça y est, ça me revient, le petit con, l'adhérent de 98, là, qui faisait du mal de campus, avec Chabert, on l'a enterré sous un peuplier de la résidence Berlioz. Uh-huh. Yeah. Jet blue shit. Uh-huh.
baby blue bellies on it. Yeah. Say kung fu. It's all kung fu shit. We strictly black belts. Ayo, ayo, you like a snake in the grass that strikes the bite. Dangerous mind that poison the waters. Walls up like trumps on all the borders. Hoarders, cribs like junkyard dog. Stacks of shit like you running the blog. I blow fog, smoke like I'm steaming out a box of clams. Woo-woo strawberry kush, purple yams. The scan is cash roll, the rules a big bag. The bag of rubber band, stacks in a green rag. Nigga don't play with me. You ain't tight with me. Took the bird off my arm cause the shit kept biting me. Damn Skippy, Wu-Tang roots are essential. My jewels shine hard like a verse on an instrumental. I ain't a janitor, I'm a giant like Andre. Splash a pineapple with a whole glass of Bombay.
L.A.D. Double breast, bulletproof vest, ooh, we so blessed. Gold diamond crusted, Cuban on my chest. You see it when I see her, my whiz look like a Leah for protection. I load up missiles, North Korea, clientele supreme. Rip embassy jeans, young king, running queens through my mezzanine. It's a dream, I'm expanding, gram by gram. 100 bricks in the semi, them birds landing. I feast the famine, my palace like a castle. Graduated magnum cum laude with the tassel. Champagne toast. East coasting, panoramic view of the Atlantic Ocean. Panamera Porsche, hit an engine roasting. Flexing on the gram, IG posting. Ghosting live, doing algebra. In Santa Mira, we more like Al Jazeera. Motherfucker.
Throw your hands up, this here is a robbery. Without a gun, no ifs, ands, or probabilities. I want your Benjis, Jacksons, and Grants. Depend to your debit, nigga, reaching your pants. Throw your hands up, this here is a robbery. Without a gun, no ifs, ands, or probabilities. I want your Benjis, Jacksons, and Grants. Depend to your debit, nigga, reaching your pants.
He's a phone nigga. Was it mine? Was it mine? Was it mine? You don't want this from me. He's a phone nigga.
Give me that beat, fool. It's a full-time jack move. Blue ink on my skin ain't a tattoo. Damn, dot pack exploded. Foiled the bank robbery. Money funny, looking Canadian. Monopoly honorary, but I'm cooler than Sean Connery. Pissing on the ATM card. That's a trickle-down economy. Fuck up a check like counterfeit Nikes. Rappers got no soul. Sell it out for clickbait. Break the internet when I dictate. Ask a girl how my dick tastes. When it inflate, I get FaceTime without Wi-Fi. Check the rollie on loop times and watch time fly. I just literally spit an airline. Now here's an underground bar. They leaking like pipelines. These niggas snitch to the law. You only tried to flex when your homies got here. We gon' make all your pockets look like rabbit ears. You out of here.
C'est Radio Campus que vous écoutez à l'instant, c'était Godface Killer et c'était le morceau, Alex.
Cold Crush.
Cold Crush.
Bah parfait. Et voilà.
This is Channels Television's breaking news.
C'est l'heure du presse-citron, à ne pas confondre avec le bloc-notes, bah, bien sûr.
Rien à voir.
Vous connaissez la différence, ça n'a rien à voir. Le presse-citron, c'est toute l'actualité de la semaine. Vu de Grenoble, Grenoble, le Chicago français, comme l'expliquait le Figaro du 28 septembre dernier. C'est une lecture passionnante, ça vous a sans doute échappé. Au milieu de ce paysage hérissé de montagnes, écrit la journaliste du Figaro, dont on taira le nom par charité chrétienne, les dealers ne se cachent plus. Comme de simples primeurs, ils s'installent sur les trottoirs par beau temps. Ils sortent les chaises, les tables, il y a même de la musique. La drogue ronge le bassin grenoblois, ruine le quotidien des habitants.
C'est horrible.
C'est une sale ville, hein. Franchement, c'est peur. Je vous propose de partir vite de Grenoble et d'aller très très loin retrouver notre reporter du bout du monde, Karim. Karim, bonjour.
Bonjour.
Mais ça marche, tu es en direct de Washington.
Bonjour de Washington, une ville provinciale et administrative où il est virtuellement impossible de commander à manger après 21h30, mais où il est parfaitement concevable de déclencher une guerre commerciale avec la Chine au petit déjeuner et une guerre nucléaire avec la Corée du Nord avant dîner, avant 21h30 donc, parce que sinon il faudra se contenter d'aller chercher un Mars à la station service du coin. Et cette semaine à Washington, c'était Halloween.
C'est censé partir.
Attention, voilà. Ambiance.
On n'a pas changé de style.
Rien n'a changé.
J'ai cherché le chat, mais il s'est fait la malle. Pardon.
Je vous rappelle le principe d'Halloween. Refilez aux enfants du quartier les bonbons que vos enfants avaient rapportés l'an dernier, que vous aviez cachés pendant un an et qui sont maintenant largement périmés. Donc chaque année, les médias américains mettent en garde contre les bonbons périmés qui circulent à Halloween. Et à Portland, dans l'Oregon, où l'on sait encore s'amuser, ce sont des bonbons imbibés de méthamphétamine, du meth, une puissante drogue hallucinogène, qui ont envoyé deux personnes à l'hôpital. La police enquête et je vous assure que c'est vrai. Halloween, ce sont aussi des costumes pour faire peur. Alors cette année, les employés de la Maison Blanche se sont déguisés en agents du FBI. Il paraît que Trump a eu très très peur. Et à Fox News, c'est le déguisement de livreur de pizza latino qui a déclenché des scènes d'hystérie. Mais le déguisement qui fait le plus peur aux États-Unis et dans les rues de Washington, c'est tout de même celui de l'homme blanc détenteur d'un port d'armes, qu'il utilise régulièrement dans les écoles, dans les synagogues, contre des adolescents noirs désarmés. Celui-là va voter aussi régulièrement qu'il lave sa voiture, car dans 3 jours, ce sont les midterms, les élections de mi-mandat aux États-Unis, et ça aussi, ça fait très très peur. Donald Trump a expliqué jeudi dans Axios que la raison pour laquelle il manie l'insulte, la peur dans sa rhétorique, il parle des médias comme des ennemis du peuple et des démocrates comme des ennemis, etc. C'est parce que, dit-il, ça marche. Mes partisans aiment ça, a dit le président américain. Je pourrais être gentil, mais c'est cette rhétorique qui fait que je suis là où je suis. Voilà, c'est clair. Et le président de CNN, Jeff Zucker, qui était interrogé vendredi sur la raison pour laquelle il donne tant d'espace à cette rhétorique de Trump, qui a abouti à des engins explosifs envoyés dans les rédactions de CNN il y a 2 semaines, et bien il a répondu à chaque fois qu'on réduit notre couverture de Trump, les audiences baissent, et donc il tombe de ta question. Voilà. Karim Debour à Washington pour Gloobie.
On t'embrasse, Karim. Et grâce à la technique, c'est dingue. On a l'impression qu'il est dans le studio. Ça marche avec ton micro, c'est fou.
J'ai l'impression que Washington, c'est un peu un Grenoble américain.
Ouais.
Bise. Vous écoutez Campus. Il est 20h16. La pendule dit 9h16, mais c'est très compliqué. Il est 20h16. Il y a plein de pièges. C'est l'heure de retrouver le professeur Politos. Vous savez, c'est notre expert en tout. Il répond chaque semaine à une question posée par un auditeur. Cette semaine, c'est Alain C. de Grenoble. Il écrit « J'ai fait de la prison. Je cherche à me reconvertir, peut-être à refaire de la politique. Emmanuel Macron me tente, En Marche me tente. Mais d'où vient Emmanuel Macron ?» C'est une très bonne question, professeur Politos.
Oui, Philippe. La science sait tout, la science fait tout. Pour vous en convaincre, il suffit de dissiper l'épaisse brume de rumeurs malveillantes entourant un halo lugubre, le président de la République française, Emmanuel Macron, pour vous en révéler la genèse proprement hors du commun. Fini le mythe du banquier d'affaires soudain touché par la grâce politique et le goût des dorures élyséennes. Oubliez l'ambitieux énarque amiénois qui trahit son mentor corrézien et se livra à un exercice de grand écart pour réconcilier les gens de droite de gauche et les gens de droite de droite. Non! La création d'Emmanuel Macron a eu lieu en mars 2015 dans une cave obscure du centre de Bruxelles où Pierre Moscovici avait installé un laboratoire clandestin pour y mener quelque incroyable expérience. Car, on ne sait que peu, Pierre Moscovici, que pour des raisons de rythme interne à cette chronique nous appellerons désormais Mosco, possède depuis sa plus tendre enfance un goût prononcé pour la chimie, qu'il pratiqua d'abord en amateur éclairé avant d'en faire un hobby aussi dévorant que son obsession pour l'orthodoxie budgétaire. Lorsque Mosco fut nommé commissaire européen il y a tout juste 4 ans, il put enfin faire converger ses deux passions en un seul projet. Créer le président parfait, un homme politique de synthèse qui ne trahirait jamais l'idéal d'une doxa européenne basée sur la rigueur et le ruissellement des richesses, dont on résumera ainsi le principe « chaque fois qu'un riche a un orgasme, les pauvres sortent leur parapluie ». Mosco, donc, passa de longues semaines à assembler les morceaux qui lui permettraient de parvenir à cette fin monstrueuse, déterrant les dépouilles de quelques fameuses figures de la politique hexagonale. Les mains de fer de Charles Pasqua, le cœur et les reins de Raymond Barre longuement conservés dans leur propre graisse, et les cheveux d'Alain Madelin, récoltés mèche après mèche, le temps d'un long flirt idéologique à l'époque où il croyait encore au libéralisme. Seul le visage fut prélevé sur un inconnu fraîchement décédé, après une chouffe et une chauffe de trop dans un établissement de nuit belge. Restait enfin à lui trouver un cerveau. Pour cela, nul besoin d'attendre le dernier râle de Bernard Tapie. Une bonne intelligence artificielle fit parfaitement l'affaire après en avoir préalablement formaté le logiciel selon les conventions, de Genève et d'ailleurs. Rien de plus simple pour l'expert Mosco, qui n'avait plus qu'à ressortir le grimoire de son maître disgracié Strauss-Kahn. Dérégulation, baisse des taxes, dette publique, insécurité, chômage ou déclassement, plus quelques mises à jour histoire de faire jeune et dynamique, ainsi qu'un soupçon de compassion envers les plus faibles, sans surcoût de financement bien entendu. En quelques mots-clés, le tour était joué, et même très bien joué, puisque l'engouement fut instantané pour cette créature si lisse et si génialement pensée pour les unes des magazines, d'actualité People ou d'actualité tout court. Grisé par cette providentielle réussite, Moscou redoubla l'expérience en lui créant une fiancée, façonnée cette fois à partir de ses propres goûts de quinquagénaire dégarni, ce qui ne fut pas sans créer un certain trouble dans l'opinion lorsqu'on découvrit ce couple pas vraiment bien assorti. Mais Moscou, qui a décidément beaucoup de ressources, et pas seulement monétaires, dégaina alors sa troisième passion secrète. Un intérêt prononcé pour le storytelling. Ce qui n'était au départ qu'une bourde commise par un technocrate enfermé depuis trop longtemps entre les murs de son laboratoire devint, à force de la rabâcher sur toutes les antennes et tous les réseaux, un coup de génie et la plus miraculeuse des histoires d'amour. Oui, la science sait tout, et la science fait tout, même transformer le concubinage forcé entre deux androïdes programmés pour détruire le modèle français en une romance qui édifie le peuple et défie le conservatisme des puritains de l'ancien monde.
Merci, professeur Politos. On peut révéler un petit secret. Hein. Il nous envoyait cette chronique depuis Berlin. Si vous avez, vous aussi, une question à poser au professeur Politos, écrivez à Radio Campus Grenoble, bâtiment F, 701, avenue centrale, domaine universitaire, 38400 Saint-Martin-d'Hères. C'est ce qu'on disait à l'époque, mais
ça a peut-être changé. Ouais.
Ouais,
on voit un fax.
Vous êtes parfaitement antipathique. D'ailleurs, je ne vous aime pas, moi non plus. Comme quoi, vous voyez, Sanctis Recorda, Sanctis Deus Rex.
Ce qui veut dire...
Absolument rien.
Jérôme, voilà. C'est à toi. C'est l'heure de dessine-moi un méchoui, mais qu'est-ce que c'est que ce nom ? Je sais pas où t'étais allé le trouver à l'époque.
Bah, je sais pas non plus, j'avoue.
La question de la semaine, faut-il sauver la planète ?
C'est vrai. Bon, on va pas se mentir, déjà à la base, j'avais plein d'idées super pour ma chronique. Au final, c'est avéré qu'il y a que moi qui l'ai trouvé super. Donc j'avais commencé par le marronnier du chroniqueur en panne. Peut-on vraiment rire de tout ? Ou bien encore, les enfants nés sans bras font-ils le malheur des chocolatiers ? Ce qui répond de manière intrinsèque à la question précédente. Il y avait aussi la journée de la gentillesse aujourd'hui, mais sincèrement, je vais pas faire semblant de vouloir être quelqu'un d'autre. Je déteste les autres. Bref.
Surtout les gentils.
Surtout les gentils. Bref, du coup, j'étais pas vraiment satisfait. Donc j'ai cherché un thème pas trop clivant, plutôt sans risque. J'ai dégagé le thème religion, avec la question « Quel est l'ami imaginaire le plus puissant ?» Bon, clairement, on sait depuis 2012 que c'est Iron Man.
Ouais.
Vu le nombre de films, il n'y a pas de quoi en tirer une chronique inédite.
C'est bien, donc, t'as une minute, là.
Tout ça pour vous dire que je suis tombé en accord avec moi-même pour parler écologie. Le thème de ma réflexion d'aujourd'hui sera donc « Doit-on sauver la planète ?» Alors, tout d'abord...
On y arrive.
Il y a une longue introduction. Alors, tout d'abord, j'aimerais qu'on puisse tous arrêter de se mentir, hein, qu'on parte d'un constat triste, certes, mais non moins réaliste. Arrêtez les toilettes sèches, ça changera pas le cours de l'histoire, c'est trop tard.
Comme les couches lavables.
Exactement.
Stop.
Alors, oui, c'est vrai, je sais, d'aucuns s'imaginent, avec la naïveté touchante d'un migrant demandant asile, qu'arrêter de consommer va sauver la planète. Parce que l'équation consommation égale complot illuminati sur libéralisme au carré a encore pas mal la cote dans les cercles éclairés des réseaux sociaux. Donc, d'après cette théorie macro-économico-politico-twitto-rigolote, il faudrait vivre comme des Indiens pour sauver notre belle planète. Alors, je parle de ceux qui sont devenus alcooliques dans des réserves, hein, pas ceux qui dépannent vos PC. Alors, perso les Indiens...
J'ai compris. C'est ça.
Perso les Indiens, pas question. Hein. Quand on se fait avoir bêtement par des couvertures contaminées par la variole, on se donne pas en exemple. Hein. Secondo, ça n'a aucun sens, et cela pour plusieurs raisons que je vais vous exposer ici même, là,
maintenant,
tout de suite.
Grand A.
La première, c'est que la planète n'a pas besoin d'être sauvée. Il y a méprise sur la victime. La planète, elle va continuer son petit bout de chemin pendant environ 4 milliards d'années et ciao bella, il n'y aura déjà plus personne depuis longtemps pour organiser le vin d'honneur. Non. La victime, ou plutôt les victimes, ce sont ceux qui se sont suicidés en mettant le tuyau entre le pot d'échappement et l'habitacle, c'est-à-dire nous. L'écologie, ce n'est pas la sauvegarde de la nature.
C'est l'habitacle qui te fait rire.
C'est vrai que c'est méchant. L'écologie, ce n'est pas la sauvegarde de la nature. Non, c'est la sauvegarde de l'espèce humaine. Alors, arrêtez de me bassiner avec ça. Essayez de mourir avec un semblant de dignité. Je sais qu'il n'y a plus beaucoup d'animaux pour nous regarder, mais par respect pour ceux qu'on a loupés, essayons au moins de nous éteindre en tant qu'espèce avec classe et panache. Alors, j'en conviens, ce n'est pas un programme spécialement réjouissant, mais c'est pas comme si on avait le choix. Ce qui m'amène au point 2, on y arrive, qui est la déconsommation et la décroissance en général. Si on regarde de manière pragmatique comment on en est arrivé là, on peut trouver plusieurs gros soucis. Mais bon, disons que le trop-plein de CO2, l'abondance de plastique dans les océans et la déforestation sont pas tout à fait à exclure. En quoi vivre dans des tipis va nous aider avec ça? Bah rien, non, hein. Nul, aucun sens, c'est inutile. Seule la technologie peut encore nous accorder une infime chance de nous en sortir. Et la technologie, c'est le progrès, comme disait le général. Et le progrès, c'est la croissance, comme disait Bill Gates. Et la croissance, c'est la consommation, comme disait mon boulanger. Donc, si on veut trouver des solutions techniques à un problème mondial, va falloir faire un peu plus qu'une bergerie à Notre-Dame-des-Landes ou des débats de merde en nager dans des amphis pourris. Je voudrais pas avoir l'air de critiquer, mais avec des gens comme ça, on serait toujours à se foutre sur la gueule avec des cailloux et des bâtons. La bombe H et les filtres Snapchat, on les attendra encore. Bref, si vous voulez sauver l'espèce humaine, ce qui en soi est déjà sujet à controverse à mon avis, faites des études d'ingénierie plutôt que de nous bassiner avec vos recettes de graines à la con, de tofu healthy, de légumes obscurs disparus depuis le Moyen-Âge. De la croissance, bordel, du progrès, du robot, de l'intelligence artificielle, de la blockchain. Voilà ce qu'il nous faut. Consommez, merde. Faites-moi triquer cette courbe de croissance. On n'est pas venu là pour beurrer des tartines aux vieilles épôtres. Donc, tout ça pour dire qu'il va falloir se bouger les miches et faire fonctionner nos industries de recherche à plein, parce qu'il faut être réaliste et plein de bon sens. Les clodos de la forêt, là. C'est pas en plantant des arbres qu'on va absorber le CO2.
me parle pas, ça n'a pas changé, ça.
C'est n'importe quoi,
c'est
possible.
Ça, c'est un truc, ça n'a pas bougé. Quoi.
Appelez-moi le directeur.
Mais c'est un tout petit rouge. petit.
Bon, il y a un truc qui a changé, c'est grâce à Shazam, on peut savoir et connaître la musique qu'on passe dans cette émission. C'était l'heure du run, Meet in the Woods.
C'est n'importe quoi.
Ne dis rien, s'il te plaît.
Assassin, pollueur, fumier, dégueulasse, une ordure, macro, exploiteur, industriel, hypocrite, mercantile.
Ça, c'était un jingle fait à la main, vraiment. Hein, c'était pas mal. C'était assez réussi.
C'était avec les pieds, mais non avec les mains.
2,98.
Donc, vous n'avez pas reconnu, mais c'est le dégomme au tronc. Chaque semaine, on dézingue un truc qui nous énerve à fond. Et cette semaine, on a bien réfléchi. On s'est réunis tout à l'heure. Et on a dit que le truc qui est très, très mal en ce moment, c'est la guerre.
C'est quand même la guerre.
C'est la guerre. Voilà. Donc, on a dit la guerre en Syrie et la guerre au Yémen.
Toute la guerre.
Et puis, toutes les guerres en général. Voilà. Parce que c'est mal et que nous, on dénonce, quoi.
Ouais, même les guerres des généraux.
Et puis, on n'a pas peur de le dire, hein, on non plus.
Je suis censé faire quoi?
C'est la
guerre. Un morceau de musique.
C'est l'heure de Yolande, c'est du vécu. Je ne sais pas si tu as calé quelque chose, mais on peut y aller.
Yolande. Voilà, j'ai fait mes jingles. Yolande, c'est à toi.
Bon, d'accord. Yolande, c'est à toi, donc, après ce superbe générique et jingle qu'on a travaillé tout l'après-midi.
D'accord, pas de lancement.
Pas de lancement, rien du tout.
C'est à l'arrache.
À l'arrache, tu as décidé de nous parler de la foire de Beaucroissant.
De Beaucroissant.
De Beaucroissant.
Ouais, chaque année, deux fois par an, se tient aux confins nord du département une foire historique, s'il en est, dont les origines médiévales n'ont rien perdu au fil des siècles de leur attrait désuet et de leur bucolique authenticité. Il s'agit donc de la foire de Beaucroissant. Je vous vois sourire. Rire et même rire, mais encore aujourd'hui, ne riez pas. Elle est the place to be pour tout éleveur de bovins au vin volailler régional qui se respecte. C'est une sorte de Wall Street du monde agricole auvergnat-alpin. Donc c'est, bah oui, auvergnat-alpin. Bah oui, c'est comme ça qu'il faut dire.
Merci monsieur Lochiez.
C'est sans doute parce que je ne pouvais décemment pas passer à côté de ça ou par pur désœuvrement, sans doute aussi, que je décidais de me rendre à la 799e édition cette année de cet événement incontournable. Arriver sur les lieux, c'est déjà un défi, car pour couvrir 30 hectares de foire, il faut quasiment prévoir l'équivalent en surface de circulation et de stationnement. Car à Beaucroissant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, tout mode de transport doux et non polluant est proscrit. Donc, toi qui nous écoutes, si tu roules en trottinette électrique, que tu es végane, que tu manges sans gluten et bois du jus de goyave bio, surtout, n'y va pas. C'est pas pour toi. Reste chez toi. Car à Beaucroissant, il faut dire qu'on est un peu old school. On aime la nature, oui, mais on aime aussi le diesel, le caoutchouc, le blanc limé et les glyphosates.
À 10h du matin.
C'est nous.
Et on transforme les prairies en parking, moyennant la modique somme de 4 euros la journée, ce qui n'est rien face à cette folle promesse de convivialité et de chaleur humaine. Et une fois cette place de parking durement conquise, ne surtout pas oublier pour profiter pleinement de l'expérience le dress code. Survêt mulet, bottes en caoutchouc, je vous assure que c'est authentique.
Non mais c'est comme pour les festivals en Angleterre, c'est hyper branché. Les bottes en caoutchouc.
Le mulet revient. Le mulet revient et il est à nouveau tendance.
Ouais, au grand galop même. Pardon.
Donc, 30 hectares de foire, ce sont des exposants de toute nature, sans mauvais jeu de mots. J'aurais pu dire de tout poil, c'était aussi nul. À perte de vue. Donc, des tracteurs, des équipements, des produits agricoles comestibles ou pas, vivants ou pas. On ne sait par où commencer. Heureusement que les organisateurs prennent soin de jalonner les lieux de moult buvettes. Autant de refuges pour le visiteur égaré et fatigué, et d'autant plus assoiffé, dont j'ai vite fait partie, je le confesse. Car quand on ne vient pas faire de business rural à Beaucroissant, il y a finalement assez peu de choses à faire, à part boire et manger du local, rien que du local, ma petite dame. Ça me rappelle des souvenirs. Cela si on est bien sûr aussi insensible que moi au charme discret de la robe à cajou de la vache Abondance ou à la fermeté de la cuisse du cheval de trait Berrichon. à mon 7e blanc limé, et comme je commençais à prendre la fanfare locale pour les musiciens du Louvre et envisager très sérieusement l'acquisition de cette coquette moissonneuse-batteuse qui me faisait clairement de l'œil depuis mon arrivée, un éclair de lucidité m'emmenait presque inconsciemment de retour au parking, avec encore dans les narines ce doux parfum, mélange d'herbes fraîches et d'un fumier très local, lui aussi. Et en remontant dans mon véhicule, nourri au sans-plomb, lui, je me disais, outre que mon taux d'alcoolémie m'imposait de ne pas conduire, que l'urgence de la révolution verte, indispensable à la sauvegarde de la planète, devait sans doute emprunter la voie cyclable, parce qu'elle avait quand même eu un sacré mal à arriver jusqu'ici. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. Vivement la 800e.
Avec mes grosses couilles, je fais mon jogging. Avec mes grosses couilles, en écoutant Billie Jean. Avec mes grosses couilles, j'appelle ma chérie. Avec mes grosses couilles, elle vit. Elle vit. Casino, avec mes grosses couilles, j'achète mon Kinder Bueno. Avec mes grosses couilles, j'appelle ma chérie. Avec mes grosses couilles, elle vit. Elle vit. Avec mes grosses couilles et des ouvriers du bout. Avec mes grosses couilles, j'appelle ma chérie.
Alors là, c'est pas du tout ce qui s'est passé, mais c'est bien de piocher.
C'est moche.
Efféminé de Philippe Catherine dans sa période Carlos, pas le chanteur, hein, vraiment bien le terroriste, celui qui explose une belle carrière.
J'ai longtemps pensé que pas un mot de tout ça n'était vrai. Le bien et le mal, la lumière, le côté obscur, une force surnaturelle. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est vrai. La force, les Jedi.
Gloubi Boulga.
Tout est vrai.
Et oui, tout est vrai, tout est fait à la main. C'est le club des abonnés, le club privilège pour tous ceux qui aiment Gloubi Boulga avec ce cadeau, si vous êtes abonné. Très, très beau cadeau.
On
est allé chercher très loin.
On est allé chercher loin.
De la piscine gonflable de Brégançon. Elle a à peine servi une petite dizaine de jours. Elle est toute neuve. Si vous appelez tout de suite...
En parfait état.
Et vide. Ouais. Je
non, il reste le maillot de bain de Benalla, je crois, au fond. Mais voilà. La piscine de Brégançon, vous appelez, vous gagnez tout de suite si vous êtes...
un petit coup de microfibre et tout part.
Abonné de Gloubi Boulga. Hop, je surprends encore. C'est l'heure du GG, le guide de Glooby Boulga, avec bon, juste 10 minutes d'avance, mais le conducteur est d'une rigueur parfaite. Donc on est en train de chercher plein de titres pour finir. Bon, c'est l'heure du guide. Marie Caro, tu nous expliques comment faire une chronique quand on n'a rien vu.
Ouais,
on est resté chez soi et qu'on n'a pas bossé.
Hyper longtemps.
C'est une chronique de 14 minutes qui voilà. commence.
Ouais, mon cher Philippe et mon cher tous, c'est donc le sujet que j'ai choisi pour deux bonnes raisons qui ont tout un facteur commun, le temps ou plutôt le manque de temps. Première raison, je ne suis pas comme tous ces glandeurs d'étudiants qui peuvent passer la moitié de leurs heures de cours à disserter sur les trois films qu'ils voient par semaine, les quatre expos qu'ils ont vus ou projettent de voir et les livres qui ont changé le cours de leur existence. Deuxième raison, quand bien même j'aurais vu un film, les derniers ont pour titre, mes enfants qui sont ici peuvent le confirmer, Dilili à Paris, bon ça je veux
ça,
dire,
c'est
ça
pas mal,
ça, c'est pas mal, ouais, c'est un peu pour les adultes et tout oui. ça, et Yeti et compagnie. Je suis aussi hyper au point sur le dernier album des Légendaires et sur Mickey ouais. Parade aussi, si ça vous intéresse. Donc la chronique de l'expo que je n'ai pas, allez, pas encore vue, soyons optimistes, me paraît tout à fait indiquée. Objectif, mon objectif sur cette chronique, c'est me donner envie d'y aller. C'est un peu schizophrène,
c'est un bon
j'en
début.
Conviens, mais ça passe. Alors d'abord un conseil, si vous êtes dans mon cas, choisissez un sujet, soit que vous maîtrisez sur le bout des doigts, au hasard l'opéra pour Philippe.
Oui,
bien, oui, bien sûr. Sûr. Le métal pour Jérôme.
Bah toujours.
Ouais. Le Lynch pour Yolande.
Bah, complètement.
Et ouais.
Sauf sur les jingles.
Ou, voilà.
C'est
ou
tout
le...
moi.
Allez, j'allais dire les jingles, mais non. Le chili con carne pour Alex.
Oui.
Voilà. Ou à minima, un sujet sur lequel vous êtes en mesure de recueillir quelques infos. Même si Internet est votre meilleur ami, il ne peut pas tout. Il faut que ça reste crédible quand même. Évitez de choisir ah bon l'exposition Étienne Baluz au musée du cloître de Tulle. C'est en ce moment, je me suis renseignée.
Bah, où, c'est réel. Référence réelle.
J'ai fait des recherches. Ou l'expo Vermeer et l'art néerlandais au Ueno Royal Museum à Tokyo. On ne vous croira pas.
Formidable.
Voilà.
Délicieux.
Mais ça a l'air très bien, ça a l'air très très bien, mais je ne pourrais pas vous donner assez d'infos pour vous convaincre d'y aller. Cela reste néanmoins un exercice très formateur, puisque comme Pierre Lemaître l'explique dans son roman « Couleur de l'incendie », vous voyez que je suis quand même en train de lire un livre, c'est la suite de « Au revoir là-haut », je cite « Ce jeune homme disposait, selon le credo de Jules Guillotot, des deux qualités indispensables au métier de journaliste, être capable de discourir sur un sujet auquel on ne connaît rien et d'écrire un événement auquel on n'a pas assisté. »
Les fondamentaux, les fondamentaux.
Voilà. Jules Guillotot étant dans l'histoire rédacteur en chef, vous l'aurez compris. Ceci étant dit, vient de débuter à Grenoble une grande exposition consacrée à Chicago. Non, à l'Égypte antique. Quelle bonne aubaine. Moyennant quelques nounours au chocolat piqués à mes enfants, une promesse qu'un jour elle pourrait elle aussi dire aux autres comment ils doivent faire leur boulot, une de mes collègues est allée voir servir les dieux d'Égypte, divines adoratrices, chanteuses et prêtres d'Amon Ateb, et elle m'a fait un petit topo. Je vous donne donc ce qu'elle m'a livré en remplaçant « elle » par « je ». C'est indispensable, hein, sinon ça fonctionne pas.
Oui, c'est vrai, ça se voit. Ah,
sinon ça se voit, c'est gros. Allez, c'est parti. Alors avec cette expo, on fait un véritable voyage dans le temps. On se retrouve plongé 3000 ans en arrière à Thèbes, aujourd'hui Louxor. Direction plus précisément...
J'adore.
Voilà, j'allais le faire, mais on a déjà mis un Catherine. On a dit ouais, pas plus d'un par émission. Donc, direction plus précisément, le temple de Karnak autour de la méconnue, trop méconnue. Hein, troisième période intermédiaire, 2069 à 655 avant Jésus-Christ.
C'est le moment Jarnac, culturel. C'est Jarnak, mais pas Karnak.
Voilà. Je dois dire que j'ai été complètement bluffée par la somme des pièces présentées, pas moins de 270, dont la plupart du musée du Louvre. Et cette expo permet de les rassembler, c'est incroyable. Il se trouve qu'au 19e siècle, elles ont été dispersées parce que les découvertes d'antiquités en Égypte étaient telles que le gouvernement égyptien était un peu dépassé et le distribuait allègrement comme cadeau diplomatique, un peu comme Macron distribue les cadeaux fiscaux aux plus riches. Oh pardon, ça m'a échappé. Ce qu'on attend bien sûr, ce sont les sarcophages, mais les objets plus petits sont tout aussi émouvants car chargés de symboles. C'est d'ailleurs ce que m'expliquait le conservateur du musée, Guy Tosato, lorsque nous déambulions ensemble dans les allées.
Ah Guy.
Ah ouais. Petit aparté, rapporter une bribe de conversation imaginaire avec l'un des acteurs de l'événement, ça peut aussi rendre la chose plus crédible. Allez, je leur tente.
Bribe qu'on peut inventer.
Ah ben bah absolument, il est même nécessaire de l'inventer. J'aime beaucoup Guy Tosato, mais je n'ai jamais déambulé avec lui dans les allées du musée. Les murs ont été peints avec des couleurs chaudes et vives qui mettent parfaitement en valeur les objets. La commissaire de l'exposition et conservateur en chef du patrimoine au département des antiquités égyptiennes du Louvre, Florence Gombert-Meurice, m'a confié, oui à moi, qu'il ne s'agissait que de peinture à l'eau, parce que c'est plus rigolo. Non, c'est parce que parce qu'en fait, sans sol, voilà, c'est des peintures sans solvant, ce qui pourrait s'avérer nocif pour ces pièces qui ont traversé les siècles. Ces couleurs sur les murs, on en retrouve certaines dans les sarcophages, et on peut souligner le très beau travail des personnes qui ont travaillé pour restaurer ces œuvres. Ce qui est également remarquable dans cette expo, de mon point de vue toujours, c'est qu'elle met en valeur le rôle des femmes, des véritables maîtresses de maison. Il faut dire que les prêtresses étaient des filles de rois envoyées à Thèbes pour tenir le rôle symbolique d'épouse du dieu Amon, pas Benoît. Ouais, non, peut-être un jour, ensuite. Mais on ne sait pas. On voit ici que leurs cercueils sont richement ornés, ce qui était donc une excellente situation. Ce qui, à l'époque, n'était pas si courant. Tenez par exemple les scribes.
Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Alors,
si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir, qui vous aide à avancer. Alors, ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. »
Et voilà, vous aurez peut-être reconnu Édouard oui. Baird qui jouait Otis.
Notre ami
à tous, peut-être bientôt, qui jouait Otis dans Astérix et Cléopâtre d'Alain Chabat. Et d'ailleurs, je veux bien me sacrifier, maintenant que je me suis donné envie d'aller voir cette expo, pour servir de guide à Édouard Baird s'il veut venir visiter l'exposition du musée de Grenoble. J'ai donc jusqu'au 27 janvier pour trouver quelqu'un qui bosse à France Inter et qui pourrait me donner son numéro de téléphone.
Chaud.
Mais
chaud.
Ça va être chaud.
Globi Boulga, Campus Grenoble 90.8. Money's a voice in the background. Get away from me, you get the hell away from me. The boys. Get away from me again.
C'était Halfway Home de Christine Hirsch. On continue le guide de Gloubi Boulga.
Mais oui.
Yolande a travaillé trois conseils. On commence par...
C'est bien la seule. Alors,
ouais. C'est bien la seule qui a un petit peu bossé ici.
Bravo. Hein, America d'abord, c'est ça?
Voilà, America qui est une revue qui est parue à l'occasion de l'élection de Donald Trump et qui donc va continuer pendant toute la durée de son mandat. Elle paraît une fois par trimestre. C'est une excellente revue littéraire éditée par Eric Fotorino et François Bunel, qui est donc l'animateur de cette dernière, je crois, ce reste d'émission littéraire qui passe encore à la télé.
Eric Fotorino, qui est un ancien du Monde, qui s'occupe du journal numéro 1, qui est excellent aussi.
Oui, et qui est éditeur par ailleurs. Donc voilà, c'est une très belle maquette. Je trouve que les illustrations, les photos sont magnifiques. Cette revue décrit l'Amérique sous Trump. Donc un pays immense et très contrasté. Voilà, il faut le montrer à la caméra.
Oui, c'est ça, c'est...
Voilà, je l'ai apporté pour bien montrer la couverture. Donc c'est une revue qui est composée de textes littéraires, de nouvelles, mais aussi d'entretiens avec des auteurs intellectuels américains. Alors, on y retrouve Don DeLillo, Paul Auster, bien entendu, Colm McCann, Douglas Kennedy. Enfin voilà, il y a aussi quelques auteurs européens qui ont participé à cette revue. Et le dernier numéro, qui est paru en septembre, est consacré à la manière dont l'Église et la religion marquent de plus en plus la société américaine. On y trouve un grand entretien avec Patti Smith, un article sur John Steinbeck. Donc si vous éprouvez un petit peu d'intérêt pour la littérature américaine, c'est une revue dont il faut absolument faire l'acquisition, ou en tout cas s'abonner. Après, vous pouvez aussi piocher des numéros. Alors l'abonnement est vrai, alors, c'est un peu cher.
C'est quand même 19 euros. Alors, c'est ce qu'on appelle les MOOC, hein, c'est ça, entre les magazines et les livres, mais c'est un beau objet, comme on dit, donc vous n'êtes pas obligé de tous les acheter parce que de toute façon c'est thématique, intemporel.
Enfin, maintenant on n'a plus des RMI, hein, on est tous payés en K€, donc on peut s'offrir cette revue. Donc si vous aimez un petit peu la littérature américaine et l'histoire contemporaine américaine, eh bien voilà, je vous conseille d'en faire l'acquisition, ne serait-ce que de quelques numéros.
Dans le dernier, il y a un magnifique papier sur San Francisco signé François-Henri Désérable qui explique que plus on est riche et moins on attend son Uber. Je sais pas si tu as vu ça, c'est extraordinaire. Un temps d'attente quand vous êtes le commun des mortels, c'est 10 minutes. Et quand vous êtes un milliardaire de la tech, bah, normalement c'est 10 secondes parce que les types attendent devant chez vous pour vous proposer la start-up et vous vendre son idée. Et donc ils pitchent pendant le moment de la commande. Donc vous êtes riche, vous appelez un Uber, il est là immédiatement, parce qu'il y en a 15 garés devant chez vous.
Et ouais, on prête
corrige. Super papier.
Et chose étonnante, c'est en français.
Oui, voilà, absolument. Non, il y a parfois des articles qu'on trouve en français et en anglais, mais on peut toujours s'y retrouver en français, en tout cas.
Deux autres conseils, un copinage ?
Oui, complètement. Alors là, donc je vais vous parler d'une un excellent livre BD qui s'appelle Une saison à l'ONU, au cœur de la diplomatie mondiale, et dont l'auteur est Karim Lebourg. Je ne connais pas. Ça te dit quelque chose ?
Ouais,
sombre, je ne sais pas. Qu'il a écrit donc avec une dessinatrice qui s'appelle Aude Masson. Et donc c'est voilà, un livre BD de notre collègue et ami journaliste Karim. Et donc il raconte les coulisses de l'ONU dont il a été correspondant de 2010 à 2014. Donc depuis son arrivée en poste jusqu'à la fin de sa mission. Il parle beaucoup de la vie à New York et d'ailleurs la difficulté qu'ont les serveurs de Starbucks à retenir son prénom. Parce que Karim, c'est compliqué pour eux. Donc c'est Kevin, Kylian, mais on n'arrive jamais à écrire vraiment son prénom sur ses mugs. Et donc il expose les absurdités et les incohérences de cette grande machine qu'est l'ONU. Et donc il raconte notamment une intervention dans laquelle il parle de la suppression éventuelle du droit de veto. Et où ensuite, en off, discute avec un collègue qui lui explique qu'en fait, le droit de veto ne doit surtout pas être supprimé, parce qu'il s'agit d'un pilier fondamental de cette organisation, et que si le droit de veto était supprimé, beaucoup d'États ne continueraient plus de participer. Donc voilà, c'est assez didactique, et heureusement, parce que comprendre l'ONU, c'est un challenge, et surtout, c'est un moyen de se dire que le monde serait sans doute bien pire si l'ONU n'existait pas, même si effectivement, c'est une organisation largement perfectible. Donc, c'est paru chez Stenkis.
C'est un peu le Candide qui débarque à l'ONU.
Voilà, qui débarque à l'ONU et qui découvre voilà, un petit peu les coulisses et surtout le côté très kafkaïen du fonctionnement de cette grosse organisation internationale.
Avec son Duffelcoat.
Et du coup, il y allait à l'ONU vraiment ou c'est
vrai qu'on peut pas savoir.
On peut pas savoir.
Je crois que là, il y était vraiment. Un dernier conseil.
Alors, un petit dernier conseil qui est aussi un petit peu du copinage, ne nous le cachons pas. Donc voilà, il s'agit là encore d'un livre BD qui s'appelle « Désintégration, journal d'un conseiller à Matignon » et dont l'auteur est Mathieu Angotti et Robin Recht, donc qui a été coécrit. Et donc c'est là encore un livre BD qui décrit les coulisses du pouvoir sous Hollande pendant le gouvernement Jean-Marc Ayrault. Donc l'auteur est appelé à entrer au cabinet du Premier ministre afin de participer à la réforme de la politique d'intégration qui finalement n'a pas vraiment ce qui finalement n'a pas correspondu à ce qu'il aurait souhaité puisqu'aucun plan d'action n'a jamais été mis en œuvre. Donc c'est des années de travail pour que finalement rien ne se fasse puisque l'arrivée de Manuel Valls comme Premier ministre a coupé court à tout plan d'intégration qui aurait pu être mené.
Pourtant il n'essaye pas de s'intégrer en Espagne.
Ouais voilà, maintenant il essaie de s'intégrer en Espagne, c'est pas gagné d'ailleurs. En Espagne, non, en Catalogne, pardon.
Donc... Alors ça c'est super moche.
Alors nous lançons le sujet.
Donc ce livre BD décrit les rivalités, les hypocrisies qu'il vit parce qu'il n'est pas issu, lui, du sérail, mais de la société civile. Mmh. Et donc, là aussi, il y a un petit côté candide qui découvre à quel point les politiques sont vraiment méchants entre eux. Il décrit l'ignorance aussi et l'éloignement des réalités de terrain de ses conseillers traditionnels, énarques, qui confondent les gens du voyage et les Roms, qui mettent un petit peu beaucoup tous les pauvres dans le même panier. Les situations de discrimination qui sont vécues sur le terrain, notamment en faisant un test avec une collègue à lui qui a un nom à consonance maghrébine mais qui est surdiplômée, énarque elle aussi. Et donc, il fait une sorte de blind test dans une agence immobilière et on s'aperçoit que parce qu'elle a un nom de consonance maghrébine, il n'y a pas de logement pour elle. Donc, c'est une BD qui relate une expérience assez singulière, vécue de l'intérieur et qui reprend les éléments du journal de bord que l'auteur a pris soin de tenir pour garder une trace de cette expérience. Voilà, donc je vous le recommande, il est plutôt bien fait. Plutôt intéressant, même si on n'apprend rien de révolutionnaire, et il est paru chez Delcourt. Ouais, c'est ainsi, passé vite.
On
a pas vu le temps passer.
C'est fou, on n'a pas allongé du tout sur la fin, pas étiré.
Non, vraiment pas.
Pourquoi le travail fait ?
Merci à tous, un grand big up à Marie-Pierre Audic Le Boilec.
Ouais.
Et David Didou. Mais où es-tu ? Es-tu, David ? C'était son steak à la technique et on a reconnu le style.
Bravo.
J'ai retrouvé le jingle.
Bravo. Ainsi s'achève le numéro 65.
C'est déjà
de Gloubi Boulga. Rendez-vous dans 20 ans.
À l'EHPAD.
À l'EHPAD. Ouais, c'est ça, déambulateur autorisé. Merci beaucoup. On rappelle simplement une chose. Vous la connaissez. Restons groupés.
Et Marocan.
Campus Grenoble 90.8, les 25 ans, ça continue jusqu'à demain avec Radio Campus Grenoble. Dans quelques minutes, vous allez retrouver Branle-ton Spock, une autre manière de faire de la fiction radiophonique. Et le temps de permettre à l'équipe de s'installer en studio. Préparation pour le concert à la Belle Électrique le vendredi 14 décembre prochain. Le groupe s'appelle Shadow People. L'antenne, c'est le 90.8. Et le groupe s'appelle De Liminanas des Shadow People. Merci Bertrand. Une programmation Campus Grenoble.